ma prédication ce matin, si je pouvais, bon, comme ça je vous dis directement de quoi je parle un petit peu, et si je pouvais lui mettre un titre, bon, ce n'est pas facile, mais peut-être je dirais ceci, c'est ce texte qu'on connaît si bien, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Une partie d'un passage, d'accord ?« Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Ça veut dire rien, ni personne. Et donc voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous parler de quelques je vais vous parler de Pierre et je vais vous parler de quelques épisodes de la vie de Pierre, de son appel, mais je ne vais pas tout lire, évidemment ce n'est pas possible, même si j'ai pas mal de lectures, mais je vais essayer de les, enfin, on va essayer de faire ça de manière agréable et de manière vivante, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va parler, vous savez que Pierre a été appelé à servir Dieu, donc il a été appelé par Jésus. Mais on va parler aussi de son caractère à Pierre. On va parler de ses défauts. C'est pas bien, hein ? Vous allez dire, c'est de la médisance, on parle de défauts, c'est ça la médisance, mais c'est pas de la médisance. Vous allez voir où je veux en venir. On va voir que Pierre avait des défauts. Ben, c'est pas nouveau, vous le savez, hein ? Si je vous parle, j'aurais pu, et j'y ai pensé, j'aurais pu vous parler d'Abraham, j'aurais pu vous parler de David et peut-être d'autres personnes. Et vous montrer que ces personnes avaient des défauts, qu'elles avaient un certain caractère, qu'elles ont fait des erreurs. Et c'est de ça que je vais parler en parlant de Pierre. Et vous allez voir pourquoi. Donc, Pierre a été appelé par Jésus. Comme je dis, je ne vais pas le lire. Là déjà, je ne vais pas le lire. Je commence par vous rappeler un épisode. Et c'est le verset 31 dans Matthieu 14, mais on ne va pas être obligé d'afficher tout. Mais c'est cet épisode où, que je passerai brièvement, que j'évoquerai courtement, où Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Et puis, il dit au Seigneur, si c'est toi, appelle-moi et je vais marcher aussi avec toi, etc. Vous voyez que Pierre marche sur l'eau. Et alors je cite simplement ce verset 31 qui se passe après le moment où Pierre, ok, il marche sur l'eau, mais il s'enfonce. Voilà, vous voyez son caractère, il est impétueux. Pierre, il est impétueux. Si c'est toi, dis que je marche et je vais marcher. Et puis il marche, mais il s'enfonce. Et puis ce qui se passe donc après, c'est aussitôt Jésus, puisqu'il s'enfonce, étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre, impétueux, mais homme de peu de foi, qui doute. D'accord? C'est pas moi qui l'invente, hein? Alors vous allez voir qu'il y a un but à tout ça, parce que je vais vraiment mettre l'accent sur ses erreurs à Pierre. Hein? Bon. S'il était là, je dirais, pardonne-moi. D'accord? On sait que c'est devenu un apôtre et un personnage qui avait un appel important, mais voilà. Bon. Manque de foi, doute. On se lance, oh! Puis on s'enfonce. Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça vous est déjà arrivé, parce que Pierre, oui, ça lui est arrivé. Je prends Matthieu 16 et on passe à un autre épisode de sa vie, Matthieu 16, et je vous lis le verset 15. Et c'est un moment où Jésus parle avec ses apôtres et il leur demande, qu'est-ce que vous pensez de moi? On dit quoi de moi? Et vous dites quoi de moi? Je suis qui? Et alors il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Au verset 15. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Oh, Pierre a parlé. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas ta chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Il a bien parlé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. sur elle, et je m'arrête ici. Ça vous est déjà arrivé que vous sentez, que vous entendez, que Dieu vous parle au travers d'une prophétie, d'une conviction, d'une envie, d'un sentiment, quoi que ce soit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu dise « Je t'appelle à me servir » ? Eh bien, ça lui est arrivé aussi à Pierre. Voyez, Jésus, à plusieurs reprises, l'appelle et lui confie une mission. Et la précise, on va dire, à certains moments. Et donc voilà un moment où Pierre parle, et puis il dit quelque chose de bien, mais il dit, tu sais, c'est pas toi hein, qui a dit ça. Non, c'est Dieu qui t'a inspiré. Et voilà donc un moment où on voit l'appel. Jésus lui dit, je t'appelle, tu vas me servir. D'accord ? Ça va ? Ça vous est déjà arrivé. À Pierre aussi. Mais après, on voit plus loin. Quelques versets plus loin. Vous voyez ? On lit l'histoire. Dès que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Oui, Jésus commence après à leur expliquer ça. Je vais souffrir. Qu'il souffrit de la part aussi des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera, ou qu'il ressuscita le troisième jour. Enfin, selon la traduction, ce n'est pas important. Et voilà encore Pierre qui se manifeste. Oui, tu ne vivras pas. Et puis on dit, alors que ça se passe peut-être pendant la réunion de prière, alors que nous sommes tous là, on dit, waouh, il nous fait du bien, cet homme ou cette femme. Quelle foi! Mais qui t'inspire? Qui l'inspire? Il faut le discernement, n'est-ce pas, des fois? Et souvent, mais il faut toujours. Il faut du discernement. Jésus lui dit, ce n'est pas toi qui parles. C'est Satan. Tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent des hommes. Ah oui! Voilà l'épreuve de foi pour Pierre. Ah ben oui, il est éprouvé dans sa foi. Et son épreuve, c'est quoi? Continuer à croire, après avoir été appelé, après avoir été encouragé par Jésus, presque flatté, mais c'est pas flatté, mais je veux dire, oh, c'est Dieu qui t'a inspiré, etc. Après avoir été, oui, appelé, mis en avant par Jésus, après que Jésus lui ait dit, oh, tu vas avoir un grand ministère. Ça ne vous est jamais arrivé, vous? Oh, tu vas avoir un grand ministère. Et puis après ça, son épreuve, c'est de garder la foi. Alors qu'après après cet appel, après avoir vu les miracles de Dieu, vous n'avez jamais vu des miracles de Dieu ou des interventions dans vos vies? Si, hein? Vous avez vu dans l'église, il y a des interventions. Dans vos vies, vous avez des plus ou moins grandes choses, des petites, des grandes. Et après ça, la parole bouleverse la logique humaine. Voilà ce qui se passe. Et le défi pour Pierre, c'est de garder la foi, alors que la parole de Jésus bouleverse sa logique humaine. Et quand il dit, Jésus, viens un peu. Non, non, ça ne t'arrivera pas. Eh bien, c'est Satan qui l'inspire. C'est la pensée de la chair. Ça vous est jamais arrivé? Parce que Pierre, oui, ça lui est arrivé. Ce qu'il disait ne venait pas de Dieu. Ce qu'il disait n'était pas inspiré par Dieu. Mais la souffrance, vous savez, elle ne fait pas partie de nos plans. Elle ne fait pas partie de notre compréhension. Nous voyons la vie chrétienne souvent comme un dessin animé. Je sais pas moi, voyez. Mais c'est pas comme ça. La parole de Jésus bouleverse la logique humaine. Et moi, je veux te dire ce matin, si ça ne t'est jamais arrivé, mais je pense que ça t'est déjà arrivé, la parole de Jésus bouleverse ta logique. Les décisions, les événements, les choses que Dieu fait, les pensées de Dieu qui sont insondables, qui nous dépassent, bouleversent ta logique humaine, bouleversent ma logique humaine. Ça ne t'est jamais arrivé d'être bouleversé dans ta logique, d'être bouleversé dans tes projets, d'être bouleversé dans ta manière de penser et de voir les choses, d'être bouleversé dans ta compréhension de la vie chrétienne, d'être bouleversé dans la manière dont tu te projetais dans l'avenir, dans ton service avec et pour le Seigneur. Ça ne t'est jamais arrivé d'être bouleversé? Moi, oui, Pierre aussi. Et le défi de sa foi, c'était de continuer à croire. De continuer à croire. Alors que ce n'était plus le temps des flatteries. Dieu ne flatte pas, mais c'est une manière de parler. Ce n'était plus le temps des flatteries. Ce n'était plus le temps de l'appel. Ce n'était plus le temps des miracles. Mais c'était le temps d'une autre vérité. Eh bien, si ça ne t'est jamais arrivé, et j'en doute, à Pierre, ça lui est arrivé. Et puis alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, oui, voilà là, voilà, voici, maintenant, expliqué par Jésus, voici expliqué par Jésus cette parole qui bouleverse la logique humaine. Si quelqu'un veut venir, donc c'est le verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, c'est pas ça, hein? Ah non, Pierre et les apôtres, vous croyez qu'ils pensaient quoi à tous les disciples? Jésus, c'est notre sauveur. Ah oui, ben amen, c'est vrai. Ils avaient raison, et nous aussi on a raison quand on dit ça. Mais quel sauveur? Un sauveur qui allait mourir, qui allait être crucifié. D'accord? Qui allait souffrir. Et donc, cette logique, la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Il faut garder la foi. Quand on s'aperçoit que nos raisonnements ne sont pas ceux de Dieu et que la logique de Dieu est différente de celle de la nôtre, c'est là le défi. Il y a un défi pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de garder la foi. Garde la foi là, aujourd'hui, où la logique de Dieu n'est pas ta logique. C'est ton défi. C'est le défi que Jésus te lance aujourd'hui. Et c'est comme ça dans la progression, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Et Jésus dit, voilà, tu as entendu ce que j'ai dit, tu n'es pas d'accord, eh bien je t'explique. Je t'explique que si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et le verset suivant, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera, la trouvera. Ça, c'est la logique de Dieu. C'est ça, la logique de Dieu. Je voulais que je répète, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, la logique de Dieu. C'est pas pour ça qu'il ne nous aime pas, au contraire. Ce n'est pas pour ça qu'il ne nous fait pas du bien, au contraire. Et puis, je vais poursuivre. On va parler du triple reniement de Pierre. Pauvre Pierre, il en voit avec moi aujourd'hui, hein? Pauvre Pierre. Et on voit dans Luc, une petite parenthèse, on reste dans Matthieu, mais vous savez, on voit dans Luc, on voit dans Jean, et on a un peu plus, un récit un peu plus large, on va dire comme ça, de la vie de Pierre. Et dans Luc, entre autres, chapitre 22, le verset 31, on voit que le Seigneur dit, donc il parle à Pierre et il lui dit, là, Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. ne défaille pas, pardon, ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'est dingue, ça. Vous avez déjà lu ça? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de chances que vous avez déjà lu ça. Hein. Mais comme moi, il y a des versets sur lesquels on passe, on lit une histoire. Bah oui, c'est comme ça, la Bible est tellement riche. Satan a réclamé Pierre, et puis les autres aussi, mais a réclamé Pierre pour le cribler. Et il l'a fait, hein. Il l'a fait, Satan l'a fait. Mais Jésus, le sachant, a prié pour lui pour que sa foi ne défaille point. Elle a été sérieusement ébranlée, sa foi. Alors vous allez dire, mais même les prières de Jésus ne marchent pas alors, sa foi a été ébranlée. Mais si, elle marche, parce qu'il a gardé la foi. Ben, elle a été sérieusement ébranlée, sa foi. Mais Jésus a prié pour lui. Et je vous dis ça parce que vous savez que vous aussi, la Bible le dit, vous avez quelqu'un qui prie pour vous et qui intercède pour vous aujourd'hui, et c'est Jésus aussi, c'est la parole le dit. Eh bien, ce qu'il a fait pour Pierre, il le fait pour vous aujourd'hui. Jésus prie et intercède auprès du Père pour vous, pour que votre foi ne défaille point. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et alors, il a dit, et toi, quand tu seras revenu à moi, quand tu retrouveras des... Parce que c'est ça, en fait, il sait déjà, donc il parle déjà du retour de Pierre, quand tu seras revenu à moi, parce qu'il sait qu'il va chuter. Ah ouais, c'est ça, en fait, hein. Jésus sait qu'il va chuter. C'est pour ça que c'est mystérieux un peu. C'est pas... Et on dit même là, quand tu seras converti, mais c'est la seule traduction qui emploie ce mot-là, c'est un peu bizarre hein, de le dire comme ça. En fait, c'est quand tu seras revenu à moi. Affermis tes frères. Alors, voyez le truc. Satan vous réclame. Satan nous réclame chacun. Et il nous crible par moments. Et notre foi est ébranlée. Mais Jésus prie pour nous. Afin qu'on soit relevé. Et Jésus te dit, il a dit à Pierre, quand tu seras revenu, parce que certains reviennent, parce que certains ont quitté, certains ont chuté. Ah ben oui, c'est pas ce que la Bible dit. Le juste tombe, cette fois, mais il se relève. Pourquoi vous croyez? Pourquoi vous croyez? Parce qu'il est bien disposé, parce qu'il est fort, parce qu'il est saint, parce qu'il a... Pourquoi vous croyez? Parce que Jésus prie pour nous. Et parce que ce qu'il a promis, on l'a dit tantôt, il le fait. Et parce que Jésus a dit, il a dit des paroles semblables que je vais un peu paraphraser, mais ne te mêle pas de savoir s'il va tenir celui-là ou s'il ne va pas tenir. J'ai le pouvoir de garder tous ceux que Dieu m'a confiés et je vais les garder. Amen. Et c'est une promesse pour toi, et c'est une promesse pour Pierre. Alors encore une fois, je vais vous dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Ça vous est déjà arrivé de vous sentir réclamé par le diable, d'être criblé, de perdre la foi? Ça vous est déjà arrivé d'avoir abandonné? Ça vous est déjà arrivé de chuter? De devoir revenir à Dieu? Eh bien, à Pierre, ça lui est arrivé. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Avant qu'il ne chute, il lui dit déjà, quand tu reviendras, affermis tes frères, quand tu reviendras de ta chute, quand tu reviendras de tes erreurs, il y a une mission pour toi. Et ces choses-là, même les péchés que tu auras faits, eh bien, je vais m'en servir pour ton bien et pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça que la parole dit, non, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Ça t'arrive, c'est en train de t'arriver, mais ça arrive à Pierre aussi. Ça arrive à Pierre aussi. Et alors, on voit que, après ça, il continue. Hein. On voit, vous voyez que c'est encore Jésus qui renouvelle son appel. Hein. Et il le fait avec nous aussi, il renouvelle souvent notre appel. Vous l'entendez dans des prédications, vous l'entendez dans la lecture de la Bible peut-être vous l'entendez par une prophétie ou l'autre. Jésus renouvelle son appel pour toi. Et toi tu dis, mais non, et puis, ouais mais non, parce que quand je me vois, et ceci, et cela, et quand je vois ma vie, et quand je vois ce problème-là, et quand ceci, et quand cela. Pierre aussi. Ça lui arrivait. Pierre aussi a manqué de foi. Pierre aussi a douté. Pierre aussi a chuté. Pierre aussi a dit des paroles qui étaient inspirées par le diable. Pierre aussi. Pierre aussi. Et vous voyez, après cet épisode-là, où où il dit, mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ça vous est déjà arrivé, vous, ça ? De dire, Seigneur, jusqu'au bout, moi j'aime bien ce genre, alors ça m'est déjà arrivé, moi. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Ça vous est déjà arrivé de donner votre vie à Dieu, de renouveler vos voeux à Dieu, dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Oh, et je vais maintenant, oh mon Dieu, je le veux vraiment. Je vais faire ça pour toi, et je vais être fidèle, et je vais faire, j'irai jusqu'au bout, quoi que tu me demandes. Ça vous est déjà arrivé ? Parce que Pierre, ça lui est arrivé. Même s'il faut aller en prison avec toi, j'irai. Même s'il faut mourir, je mourrai. Et il est bien mort pourtant, Pierre. Et il a même été crucifié, crucifié à l'envers. Et Jésus lui annonce ça, à un moment donné, il lui annonce. Bon, alors, on reprend Matthieu 26. Ça va ? Et je vous dis qu'on voit un peu ce triple reniement de Pierre. Jésus leur dit... Alors il leur explique ce qui va se passer. « Je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Voilà, je serai pour tous une occasion de chute. Et il a été une occasion de chute pour tous. Il a été une occasion de chute pour Pierre. Est-ce que Jésus a déjà été une occasion de chute pour vous ? Parce que quelque part, là où vous étiez, vous l'avez renié, peut-être pas en disant « je te renie », mais vous l'avez renié par votre comportement, vous l'avez renié par votre attitude, vous avez fait semblant de rien, vous n'avez pas dénoncé les stupidités qu'on disait, que vos collègues disaient, des choses semblables, vous n'avez pas réagi, vous l'avez renié par votre comportement. Parce que si ça ne vous est jamais arrivé, Pierre, ça lui est arrivé. Et on va le lire. Pierre, prenant la parole, dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ah non, mon Seigneur, mais je t'aime, moi. Tu ne seras pas pour moi une occasion de chute. » Ça ne vous est jamais arrivé, ça, de voir les autres être dans leurs petits souliers ou voir les autres avoir une attitude qui... Ça ne vous plaît pas, ça, parce que tu dis, mais c'est pas possible, comment il se comporte là ? Il renie le Seigneur ? Moi, jamais ! Je t'aime, Seigneur ! Ça ne vous est jamais arrivé de dire ça. Ça ne vous est jamais arrivé de vous engager. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Pierre, ça lui est arrivé aussi, de s'engager avec de tout son cœur et dire, moi, je ne te renierai pas. Et Jésus lui dit, eh bien, moi, je te dis autre chose, je te le dis en vérité. Cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Et Pierre répondit, parce qu'il est toujours plus malin lui, hein, ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir plus malin que le Seigneur. Quand il vous dit quelque chose, il dit, mais non, non Seigneur, non, non, non. Ça ne vous est jamais arrivé de voir des choses qui se passent et dire, mais non Seigneur, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je suis troublé, troublé, oui, ça ne me plaît pas ce qui se passe, pourquoi tu ne fais pas comme ça ? Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières ? Moi je t'avais demandé que ça se passe comme ça, tout irait bien si tu avais fait ce que je t'avais demandé, si tu avais répondu comme ça. Je t'ai expliqué dans mes prières, fais ça pour qu'il arrive ça et qu'il n'arrive pas ça et qu'après je te sois fidèle et que ma famille se convertisse et qu'on te glorifie dans l'église et qu'elle grandisse. Il suffisait de faire comme ça, Seigneur, et ça se serait passé. Mais toi, tu ne l'as pas fait comme ça. Ça vous a jamais arrivé, ça ? Parce que Pierre, oui, ça lui est arrivé. Et voilà. Pierre répondit, « S'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas, » c'est au verset 35. Et puis après, tous les disciples dirent la même chose. C'est bien hein, d'avoir un homme de foi comme ça dans l'Église. Après, ça entraîne tout le monde. Nous non plus, nous ne te renierons pas. Et là-dessus, Jésus alla a vécu dans un lieu appelé Gethsémané, etc. J'essaie de passer assez vite, et puis il dit, c'est là qu'il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier, et pendant que je m'éloignerai de vous. Et il prie Pierre avec lui et les deux fils de Zébédée. D'accord ? Ils vont là, ils vont pour prier, c'est avant la crucifixion. Il va dans ce lieu-là pour prier, il prend Pierre avec lui donc, hein. On est concentré sur Pierre. Et puis il commence à éprouver de la tristesse, Jésus, à être éprouvé, à avoir de l'angoisse. Et il leur dit en plus, Jésus, tu n'as jamais entendu dire que Jésus souffre, qu'il a souffert et qu'il souffre parfois aussi encore maintenant, hein, n'est-ce pas ? Jésus peut éprouver de la peine à cause de certaines choses. En tout cas, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Jésus vous fasse sentir qu'il faut veiller et qu'il faut prier parce qu'un tel souffre ? Parce qu'il faut combattre dans la prière, parce qu'il y a un tel événement qui se passe, parce que l'Église est éprouvée. Et puis il dit, veillez avec moi, vous. J'ai envie de dire vaillant héros, mais c'est dans un autre texte. Veillez avec moi et priez. Et alors, après Jésus, ben, il fait quelques pas en avant et il se jeta sur sa face, il pria ainsi. Et puis bon, là, il dit, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, etc., etc. Je ne lis pas tout. Au verset 40, on dit ceci. Après, il revient vers les disciples. Qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, tiens, encore Pierre, oh le pauvre, on est en train d'énumérer tous ces... oh là là, le pauvre, il n'est pas ici, heureusement. Pierre, vous n'avez pas su veiller une heure avec moi ? Ça vous est déjà arrivé, vous, ça ? Que Dieu vous dise et vous convainque, il faut prier. Il y a des choses qui se passent dans l'Église et il faut veiller et prier. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Quand tu te lèves le matin ou le soir, je ne sais pas quel est ton temps, prends un temps de prière et intercède. Ça ne vous est jamais arrivé que Dieu vous demande ça. Et puis vous sortez du culte parce que le pasteur a dit ça dans sa prédication aujourd'hui, n'est-ce pas, comme maintenant. Et vous dites, oui, c'est vrai, je vais intercéder. Et puis il te trouve endormi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais Pierre, ça lui est arrivé. Et puis Jésus dit, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, surtout le dimanche matin. Mais la chair est faible le lundi. Bon, les jours, c'est moi qui les ajoute. D'accord ? Et puis voilà. Voilà Pierre, impétueux, avec toutes ses promesses et tout ça. Voilà, tout son engagement là. Et alors après, on voit qu'au verset 67, le récit continue, et on voit ce qui se passe. Il crachait sur Jésus, il lui donnait des coups de poing, des soufflets. Jésus était commencé le martyr. Et puis il disait, Christ prophétise, dis qui je suis, dis qui t'a frappé, etc. Et cependant, Pierre était assis en dehors de la cour, parce qu'il avait suivi, vous voyez. Et une servante s'approcha de lui et dit, mais toi aussi tu étais avec lui. Tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Toi aussi tu vas prier avec ces dingues-là et tout ça. Ouais, bon, mais... je ne sais pas ce qui a pu vous arriver, moi. Et comme il se dirigeait vers la porte... une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, mais ceux-ci étaient aussi avec Jésus de Nazareth, pardon, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth, il le nia de nouveau, avec serment. Oh, on grimpe les échelons là, je ne connais pas cet homme. Il commence à avoir peur, il est gagné par la peur là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. D'ailleurs, ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Des imprécations, c'est dire, mais que je sois maudit, si, c'est ça, hein, c'est le truc, à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et puis Pierre se souvint de la parole de Jésus. On voit même qu'à un moment donné, dans un autre récit, on voit que Jésus l'a juste regardé. Waouh, moi j'éprouve la tristesse là, c'est fou, hein, quand je vis ça en le disant, je dis punaise. Ouais, ça fait mal au cœur. Je dis waouh. Pierre, quoi. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Et le coq chanta. Avant que le coq chante, tu me réuniras trois fois, Jésus avait dit. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ouais, je sais pas, moi je suis ému quand je dis ça. Parce que ça t'est déjà arrivé, toi ça ne t'est jamais arrivé, de dire j'avais dit que je m'engagerais. J'avais dit ceci. J'avais décidé. Et puis, tout s'est écroulé, tu ne l'as pas fait. Et tu as eu de nouveau l'occasion de le faire et tu ne l'as toujours pas fait. Et on t'a reproposé encore de le faire et de te réengager et tu ne l'as toujours pas fait. Et ainsi de suite. Et puis tu t'es retrouvé chez toi et tu as pleuré. Tu dis, je suis bon à rien. Je suis bon à rien. Comment le Seigneur peut encore m'aimer? Comment le Seigneur peut encore continuer avec moi? Et tu as pleuré amèrement. Ça t'est jamais arrivé ça. Parce que Pierre, ça lui est arrivé. Et maintenant, je voudrais vous parler, après vous avoir expliqué, enfin rappelé ce triple reniement de Pierre et quelques-uns de ses traits de caractère et de ses comportements. Que s'est-il passé après la résurrection de Jésus, alors qu'ils mangeaient ensemble? Eh bien, on trouve un récit dans Jean, ça si tu peux le prendre, c'est bien, Jean chapitre 21 et verset 15. Eh bien, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Ah tiens, ils sont là encore tous les deux, Jésus et Pierre. » Et il s'adresse maintenant à lui. Et il dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Simon, fils de Jonas, c'est ça, je le répète. « M'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Parce que c'est exactement ce que Pierre avait prétendu. Hein. Je ne sais pas comment vous parlez à Dieu, comment vous avez déjà parlé à Dieu. Mais c'est exactement ce que Pierre avait prétendu en disant « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, pour moi tu ne le serais pas. Moi je ne t'abandonnerai pas, moi. » Et il lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais il n'utilise pas le même mot que Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça. Il n'utilise pas le même mot. Il utilise le mot philéo, pour ceux qui veulent savoir. Jésus utilise le mot agapé. Alors ce n'est pas que c'est un mot qui, comme on a pu le croire, qui exprime l'amour divin et un autre, un amour humain, etc. Non, c'est simplement différent. On dit que quand Pierre dit « oui, je t'aime », quand il emploie ce mot philéo, ce mot, si vous voulez, a un sens plus restreint, c'est-à-dire qu'il exprime plus les sentiments, l'affection. Ça peut être... Et Dieu emploie ce mot-là, ce fils que j'ai aimé. Je pense que c'est le mot qui est employé là, dans ce verset-là. Donc ce n'est pas un mot qui est moindre, qui n'est pas bon. C'est un mot qui est bon, mais c'est plus restreint, vous voyez. Quand Jésus dit « m'aimes-tu ?» C'est agapé, c'est un mot qui, c'est pas seulement un sentiment, même qui est fort, un véritable sentiment d'affection, mais c'est en plus un mot qui implique, je ne sais pas comment dire, hein, peut-être je vais mal l'exprimer, mais qui implique un engagement, qui implique une action, qui implique un comportement, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Et en tout cas, on voit que quand Jésus parle à Pierre, il lui dit, Pierre, il emploie le mot agapé, agapéo, il dit, m'aimes-tu? Pierre lui répond, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Hein? Bon, c'est difficile de traduire. Alors Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est fou, hein, ça. Il y a beaucoup là-dedans. Il y a des reproches. Ce ne sont pas des reproches. C'est, dis-moi maintenant, qui es-tu? Pardon? Oui, paître, ça veut dire Faire paître, soigner, prendre soin. Prendre soin. Prendre soin des brebis. Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes agneaux. Voilà. Et il dit, paix mes agneaux. Et c'est terrible le message qu'il y a là-dedans, parce qu'il est en train de lui faire, il est en train, reproche, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça, il est en train de le corriger. Il est en train de lui dire, qui es-tu maintenant? Dis-moi un peu maintenant ce que tu penses après tout ça, ce que tu penses de toi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus conclut à chaque fois en disant, mais occupe-toi de mes agneaux. Tu as failli pourtant, non? Eh bien, c'est la même chose, c'est cet encouragement que j'ai pour vous aujourd'hui. Tu as failli en beaucoup de choses. Et Jésus te dit quoi? Ce que je t'ai demandé là, s'il te plaît, fais-le maintenant. Et après il continue, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? De nouveau le même mot. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai énormément d'affection pour toi, que je t'aime. Voilà comment le traduire. Jésus lui dit, paix mes brebis, cette fois-ci pas mes agneaux, mes brebis. Et puis il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et cette fois-ci, il emploie le mot philéo, le même mot que Pierre. Comme s'il redescendait là un peu, vous voyez? Pierre, philéo, tu as beaucoup d'affection pour moi? Terrible, hein? Et Pierre fut attristé. Il a pleuré amèrement. Encore là maintenant, il est attristé. Hein? Il est attristé de ce que Jésus lui a dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tiens, c'est un peu différent la réponse. Tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Tu sais, Seigneur, tu sais qui je suis. Tu sais, toi maintenant, tu sais, tu m'as montré, j'ai vu des choses. Mais toi, tu sais qui je suis. Mais tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et toi, que dis-tu au Seigneur maintenant? La même chose, non? Seigneur, tu sais qui je suis. Tu sais mes échecs. Tu connais mes erreurs. Mais tu sais que je t'aime. Tu le sais. Tu sais qui je suis. Et Jésus lui répondit, paix mes brebis. En fait, vous devez même savoir que Jésus emploie trois expressions différentes. Il dit, paix mes agneaux. Puis il dit, après ça, il dit, sois le berger de mes brebis. Puis il dit, à nouveau, il dit, paix mes brebis. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications compliquées parce que je n'ai pas le temps, mais tout simplement, je vous dis ça pourquoi. Pour vous dire que, simplement pour vous dire ceci, c'est que, c'est souligner la pertinence des paroles de Jésus. Et puis, il continue un peu à parler à Pierre et on va pas s'attarder sur ces passages-là. Mais c'est pour vous dire qu'après tout ça, après ce triple reniement, après avoir un homme qui manque de foi, qui est impétueux, qui se laisse diriger par le diable sans réfléchir, voyez? Eh bien, après tout ça, les paroles de Jésus sont des paroles de restauration. Vous avez entendu? Les paroles de Jésus sont des paroles de restauration. Alors je vous ai dit maintenant, après avoir parlé du triple reniement de Jésus, je vais terminer par ça, par parler des conséquences. Eh bien les conséquences du reniement de Pierre, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Quelles sont les conséquences de ses erreurs? Quelles sont les conséquences de ses chutes? Quelles sont les conséquences de son triple reniement? Alors je sais ce que vous allez me dire, mais je sais ce que beaucoup disent sur leur propre vie. Parce que vous voyez, quand vous avez renié le Seigneur quelque part, quand vous avez chuté, quand vous l'avez abandonné, quand vous avez failli à maintes reprises, vous dites, l'appel de Dieu, il est fini pour moi. Les promesses que Dieu avait pour moi, le projet qu'il avait pour moi, il a anéanti. Peut-être Dieu va avoir un plan de rechange pour peut-être encore m'accepter. Un peu comme le fils prodigue qui revient et dit, mais peut-être que je vais quand même trouver une place avec les serviteurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Rien, rien de l'appel de Dieu, pas le moindre iota n'a été enlevé. L'appel de Dieu pour Pierre n'a pas changé. Rien n'a changé, malgré ses erreurs. Alors je ne vous incite pas à pécher, je ne vous incite pas à baisser les bras, mais au contraire, je vous encourage. Vous voyez? Rien n'avait changé. Et la conséquence de toutes ces erreurs-là, il y en a certes beaucoup, mais il y a eu Eh bien, elles sont celles-ci. C'est que le cœur de Pierre a changé, en tout cas, a commencé à changer. Son intelligence a été transformée. La manière dont il va se considérer lui-même a changé. La manière dont il va considérer les autres a changé. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir ceci. C'est que, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est que la conséquence des erreurs de Pierre, c'est que le travail de Jésus, le travail de restauration de Jésus commence et peut commencer à cause ou malgré ses erreurs et ses chutes. Jésus est ferme avec lui, mais plein d'amour. Il est clair, parce qu'il lui dit, hein, Jésus ne mâche pas ses mots, il lui dit, mais il est juste. Sans détour, sans flatterie, il le redresse, mais il le reconstruit. Il le redresse, mais il le reconstruit. C'est ce que Jésus fait avec toi aussi aujourd'hui. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? C'est ça ma question. Jésus conduit Pierre, voyez là, il le conduit, mais avec beaucoup d'amour. Et avec une, mais avec beaucoup d'amour, mais avec une grande fermeté. Au jugement de lui-même. Ah ben oui. Au jugement de lui-même. Ici, en ce qui concerne Pierre, c'est l'amour propre qui est mis, qui est à confesser pour lui, l'amour propre, sa confiance en lui-même, que Pierre doit confesser devant le Seigneur pour qu'il puisse le restaurer. Voilà. N'est-ce pas très instructif pour toi aujourd'hui et salutaire et pour moi aussi? Et je vais vous demander, je vais peut-être vous poser cette question. À ce moment précis de ta vie, là, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te montre, te demande de confesser pour qu'il puisse commencer à te restaurer? Celui qui aime la correction, dit le proverbe, aime la sagesse, la science. Le verset dit la science. Celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui hait les réprimandes est stupide. C'est le premier verset du Proverbe 12. Alors en conclusion, vous voyez quel encouragement il y a là-dedans? Pierre n'était pas parfait, on l'a vu. Caractère, faiblesse, erreur, chute. Et même plus tard, hein, parce que vous allez dire, ouais, mais alors maintenant, ça... parce que je sais comment ça va dans les raisonnements. Vous allez dire, ouais, voilà comment ça s'est passé. Puis alors Pierre a été établi, et puis le pape Pierre s'est devenu le grand apôtre et tout ça. Après, c'était fini. Ben non. Vous vous rappelez pas quand Paul l'a repris? Et Paul, j'ai enlevé le verset et tout ça, je vais pas le lire parce que je me dis, je vais vraiment être trop long. Mais Pierre lui a dit, hypocrite! Il le dit dans sa lettre, Paul a dit, j'ai repris Pierre devant tous parce que son attitude était hypocrite et qu'il a entraîné même les autres, y compris Barnabas, dans son hypocrisie. Ah ben oui, hein. Quand on baisse les bras, même dans le ministère, même quand on commence à se relever, à servir Dieu, quand on baisse les bras, c'est sa nature ancienne qui refait surface. N'est-ce pas la lâcheté qu'il a eue au moment où Jésus était crucifié? C'est cette lâcheté qui revient à ce moment-là. N'est-ce pas? Mais pourtant, à aucun moment, Dieu ne s'est repenti de son appel. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Dieu s'est repenti de l'appel pour toi? Allô? Est-ce que Dieu s'est repenti de son appel envers toi? Allô? Non. Non. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Voilà ce que Jésus dit. Alors, permettez-moi de terminer. Ce qui veut dire que... Permettez-moi de terminer. Hein? À aucun moment, Jésus... Écoutez bien. À aucun moment, Jésus n'a abandonné ni son amour, ni ses projets pour Pierre. Ah ben, pour toi non plus. Ah ben voilà, c'est pareil. Ce que je vous demande aujourd'hui, ce que Jésus, ce que Dieu fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents, je suis triste. Si vous pensez à quelqu'un, franchement, même des gens peut-être qui sont en bas, faites-leur écouter cette prédication. Alors vous leur dites, écoutez, ce n'est pas un grand orateur, il est un peu barbant, il est un peu long, mais il y a un message quand même pour toi, pour te relever. Franchement, j'espère que certains vont l'écouter. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de réaliser et de connaître votre Dieu, parce que vous ne le connaissez pas, nous ne le connaissons pas. Nous croyons que c'est un Dieu inaccessible et qui n'est pas plein de compassion, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, réalisez et connaissez qui est votre Dieu, un Dieu d'amour. Quel est son amour et quels sont les projets pour vous? Réalisez ça aujourd'hui. Le Seigneur, il agit merveilleusement, toujours. Chaque fois que Pierre affirme son affection, vous voyez quand il lui répond là, dans ce dialogue, « Pierre, m'aimes-tu ?» Chaque fois que Pierre affirme son affection pour le Seigneur, et je crois que vous pouvez le dire aussi, « Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. » Moi aussi, souvent, je dis « Seigneur, je t'aime. » Et quand je dis ça, je dis « Oh là 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 !» Je dis, je me vois, vous voyez, je vous assure, c'est comme ça, plusieurs fois, je l'ai fait. Je dis « Seigneur, je t'aime. » Mais Seigneur, tu sais, quand je dis que je t'aime, oh punaise, qu'est-ce que je vois mon égoïsme? Je sais très bien, je vois comme je suis, et je « Oh Seigneur !» Mais pourtant, tu sais bien que je t'aime. Je lui dis moi aussi comme ça. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait à chaque fois qu'il lui a affirmé son affection pour lui? Eh bien, malgré son reniement, Jésus lui affirme qu'un service très important va lui être confié. Voilà ce qu'il fait. Eh bien, ce qu'il fait avec Pierre, il le fait pour toi aussi. Ce n'est pas plus compliqué. Pourquoi c'est le Dieu de Pierre? Ce n'est pas ton Dieu? Ce n'est pas mon Dieu? Qui prêche-t-on? Jésus, le Jésus de Pierre. D'accord? Alors on termine par un passage qui va nous faire du bien. Et maintenant, il va prendre tout son sens quand on va le lire. Et on lit Romains 8, 28. On commence par ça, c'est parce que ça commence par ça. Nous savons du reste que toute chose, ou que Dieu fait concourir toute chose à notre bien, au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est qui ça? Eh bien, c'est toi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son propre fils, de son fils, afin que le fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est à ça que Jésus t'a appelé. Vous voyez, ça te concerne. Tu es frère et sœur de Jésus et tu es appelé à participer à sa gloire, à refléter l'image du Christ. C'est incroyable. Et donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pardonnez-moi si je vais vite pour lire ces quelques phrases, mais c'est parce que je veux arriver à quelque chose. Le verset dit ceci, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Toutes ces choses-là que je viens de dire, toi qui l'as prédestiné, toi qui l'as appelé, toi qui l'as, parce qu'il t'a justifié, Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire de toutes ces choses? Que Jésus veut glorifier. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que maintenant, ce verset prend toute sa signification pour toi? Si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Qui? Et alors on va plus loin, parce que je te signale qu'il l'est pour toi. Parce que quand le verset dit « Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» On devrait dire « Puisque Dieu est pour toi, qui va être contre toi ? » Dis-moi, qui va être contre toi ? Et je peux citer vos noms, Jean-Paul, David, tel, Chantal, Maïté. Qui va être contre toi ? Mais qui ? Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, pour moi. Qui va être contre toi? Lui qui a livré son propre fils pour toi, mais comment ne te donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui? Qui t'accusera? Qui accusera les élus de Dieu? Dit le verset 33. Qui va t'accuser? Qui? Oh, tu as chuté. Oh, tu es tombé. Oh, tu manques de foi. Oh, ça t'est arrivé combien de fois? Combien de fois? Qui t'accuse? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas moi qui le dis, verset 33. C'est Dieu qui justifie. Qui te condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alors qui te condamne? Ta conscience me fait la taire. Parce que ce n'est pas la conscience, ça, c'est l'accusateur. La conscience, ce n'est pas la même chose. Fais la taire. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et, oh alléluia, il intercède pour nous. Ah oui, comme il l'a fait pour Paul, pour que la foi, peut-être, quand elle sera ébranlée, mais qu'elle ne tombe pas. Parce que Jésus a le pouvoir, et il va le faire, le pouvoir de te tenir debout et de te relever. Parce que le juste tombe sept fois, dit le proverbe. Le juste tombe, mais il se relève. C'est le proverbe 24 au verset 16. Je le cite en passant. Alors, j'arrive à la fin du passage et je termine par ça. Alors, on connaît maintenant ces versets-là et ils vont prendre tout leur sens pour vous maintenant. Qui vous séparera de l'amour de Dieu, du Christ, pardon? Est-ce que ce sera la tribulation? Ah ben parce que ça arrive à la tribulation. Ou l'angoisse? Ah mais parce que ça arrive à l'angoisse. Ou la persécution? Ah mais oui, parce que ça arrive. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu prie pour nous. Parce que ses appels, son appel, se renouvelle. Et ses promesses se renouvellent jour après jour, voilà. Eh bien, voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par qui? Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ah parce qu'on va mourir, hein, ni la mort, ni la vie, bah oui, parce que la vie, elle n'est pas facile aussi parfois, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles qui vont venir, ni les passées, moi j'ai envie de dire c'est comme ça, donc ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, rien, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je le répète, rien de ces choses ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, et je termine par ça, et on applaudit le Seigneur, on lui dit merci, amen. Et je vous dis, cette parole-là, faites-la entendre, je vous le dis, faites-la entendre et encouragez vos frères et sœurs, parce que c'est une parole pour l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.